Cascodeur Podcast, épisode 266. Interview sur GraalVM avec Gilles Dubosc. Partie 1. Enregistré le 16 septembre 2021.
Pour soutenir les Cascodeurs, allez sur patreon.com/lescascodeurs et faites une petite donation mensuelle. Bonjour et bienvenue au Casque d'Heure, c'est un épisode interview sur lequel on va parler de GraalVM. Alors GraalVM c'est un énorme projet qui fait plein de choses, donc voilà, on va aller zoomer et détailler sur un certain nombre de ces parties-là. Et du coup, pour discuter, pour pas avoir à discuter tout seul, donc il y a Gilles Dubosc qui est chez Oracle et qui travaille justement sur le projet GraalVM. Donc je vais te laisser te présenter un peu plus que ce que je viens de dire. Tu le feras sûrement mieux que moi.
Ah, bonjour, ouais. Donc ouais, moi c'est Gilles Dubosc. Je travaille sur le projet Graal depuis un petit moment maintenant parce que j'y travaille depuis 2011 en fait. Et donc, je suis ingénieur chez Oracle.
Est-ce que c'est si vieux que ça ou c'est encore plus vieux d'ailleurs, le projet en
lui-même ? Ça dépend comment on définit. Après, tous les projets viennent d'autres projets, on va dire ça comme ça.
Ouais, c'est vrai.
Mais disons que le projet avec le nom Graal, c'était. Moi, je l'ai découvert en 2011 quand je faisais un stage de fin d'études chez Oracle. Et du coup, j'ai suivi derrière, pas chez Oracle, étonnamment, mais j'ai continué sur le projet, mais en université. Donc j'ai fait ma thèse sur le projet à l'extérieur d'Oracle, et puis à la fin de ma thèse, j'ai rejoint l'équipe chez Oracle.
D'accord.
Et voilà, donc du coup, dans ce projet, moi j'ai surtout travaillé, ma spécialité à la base, c'est la compilation. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le compilo. Mais j'ai fait plein d'autres choses. J'ai fait pas mal de CI. tous les systèmes de test de
benchmark. Tu sais, c'est celui qui dit il y en a marre, c'est n'importe quoi, faut quand lancer un truc et puis après tu restes collé à ça en fait.
Exactement, j'étais jeune et naïf. j'ai travaillé aussi plus récemment sur Espresso, donc un projet dont on va parler, j'en suis sûr, aujourd'hui.
OK. Tu dis, voilà, moi j'ai fait ma thèse sur GraalVM, alors mais ça veut dire que c'était un projet de recherche alors.
Ah ouais, bah ouais, parce qu'en fait tout ça sort de Sunlabs en fait, à la base. Moi quand j'ai fait mon stage, il y avait marqué Sunlabs sur le bâtiment.
Ils n'avaient pas encore déboulonné.
Non.
Je ne sais plus quand a été le rachat d'ailleurs, mais.
C'était juste un ou deux ans avant, je pense.
D'accord.
Comme ça. Ouais. Mais oui, à Grenoble, il y avait encore les panneaux Sun sur le bâtiment.
Ouais.
Oui, donc c'était tout à fait un projet de recherche. Et comme je disais, en fait, les projets viennent d'autres projets. En fait, tout ça vient du projet Maxime, qui était une machine virtuelle Java écrite en Java, qui en fait contenait un peu en son sein quelque part Native Image. Et donc, en fait, le projet a un peu pivoté.
Tu vois, moi, je connaissais pas, et pourtant, je suis dans le Java depuis pas mal de temps maintenant.
Ouais.
Et Maxime, voilà, je connaissais pas. Donc, c'était resté vraiment projet recherche, quoi. Enfin...
Ah oui, complètement. C'était vraiment l'idée pour Sunlabs de pouvoir faire des expériences avec cette JVM, publier des papiers scientifiques. Et puis, oui, ça n'avait pas vraiment vocation à devenir un produit immédiatement, quoi. Et en fait, moi, quand je suis arrivé, ils ont un peu pivoté, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont dit est-ce qu'on ne se concentrerait pas plus sur la compilation ? Et donc, en fait, dans Maxine, ils avaient un port Java de C1, donc le compilo client, comme on dit parfois dans HubSpot. Ils l'avaient porté en Java.
Le contexte, pour ceux qui ne savent pas, donc C1, c'est le compilateur client, donc il faut qu'il compile très vite pour que ça soit réactif pour un utilisateur, pour pas qu'il ait l'impression qu'il y ait des grosses pauses. C2, c'est donc l'étage supplémentaire plutôt côté serveur. Et des fois même, il y a des trucs où à l'époque, c'est à compiler en C1 avant de recompiler en C2 quand tu l'utilisais vraiment, c'est ça ?
Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas, la méthode avec des tiers de compilation. Et donc, ils avaient ce compilateur-là. Et ils se sont dit, est-ce qu'on n'essaierait pas ? Donc, comme tu viens de le dire, à la base, c'est un compilateur plutôt rapide, mais qui ne produit pas du code de très bonne qualité. Et ils se sont dit, est-ce qu'on n'essaierait pas de l'étendre et d'en faire un compilateur qui donnerait du code de bonne qualité ? Et l'autre aspect de ce compilo, c'était de dire, en fait, on a une interface claire avec la VM. Donc, ils avaient fait ça quand ils l'avaient intégré dans Maxine. Et du coup, ils ont eu l'idée, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas, du coup, aussi l'interfacer avec HotSpot, ce compilo? Vu qu'on a une interface claire, on peut l'implémenter dans HotSpot et utiliser ce même compilo dans Maxine et dans HotSpot. Et c'est ça qui est un peu devenu le projet Graal.
D'accord. Alors, Hotspot, pour ceux qui savent pas trop, vas-y, explique. Qu'est-ce que, ouais, parce
Ouais.
qu'on se dit là, j'y vais, mais il y a plein de gens qui savent pas trop dans le détail.
Ouais. Alors, en fait, HotSpot, c'est un des composants centrales de OpenJDK.
Ouais.
En fait, c'est la JVMML, donc c'est la partie qui va interpréter les bytecodes, qui va ouvrir les classes, qui va les compiler les bytecodes si besoin, qui va avoir toute la garbage collection. Donc, c'est vraiment l'élément central de la JVM. En fait, c'est
D'accord.
la
Et quand tu
partie
dis
qui
qu'il va
n'est.
compiler, il va quand même déléguer à C1, C2. Ou
Mais
ça fait partie.
C1-C2, pour moi, ce sont des composants d'hotspot. C'est des
D'accord, ok.
sous-projets, on va dire.
Ouais, ok. Ça marche. Alors, on va revenir à GraalVM. Donc, toi, si quand tu l'expliques dans un ascenseur à quelqu'un, tu dis que c'est quoi? D'ailleurs, parce que déjà, ça a pas mal shifté d'un projet de recherche à quelque chose de plus commercial, enfin avec un objectif d'utilisation dans la vie industrielle.
Ouais,
Donc vas-y,
c'est
ouais,
vrai.
raconte-nous Graal en quelques phrases.
Alors, en fait, déjà, je vais raconter GraalVM, et c'est peut-être là que
Ouais.
va s'opérer un peu le changement. Et
D'accord.
donc, en fait, moi, je dirais que GraalVM, on pourrait appeler ça, c'est une distribution, je crois qu'on dit comme ça, d'OpenJDK, et qui étend, en fait, OpenJDK sur trois axes, je dirais, c'est-à-dire d'une part, ben, un nouveau compilateur juste à temps, donc l'équivalent du C1, C2 dont on parlait avant, qui l'étend avec un composant, donc Native Image, qui permet de faire de la précompilation d'applications Java en binaire native.
Ouais.
Et enfin, le troisième axe, c'est ça apporte une plateforme qui permet d'implémenter des langages et de les faire coopérer. Voilà. Moi, c'est comme
D'accord.
ça que je présenterai très rapidement GraalVM. Et en fait, ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, ce qui lie tout ça, parce que ça a l'air de partir dans toutes les directions, mais en fait, ce qui lie tout ça, c'est que tout ça, c'est en fait basé sur le compilateur Graal, qui est au centre de tout ça et qui est
D'accord.
utilisé dans le nouveau JIT, dans Native Image, et dans l'implémentation de ces langages. En fait,
D'accord.
c'est pour ça que ça vient tout ça de ce projet de recherche autour d'un compilateur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a ça. Alors après, c'est vrai qu'on a essayé d'utiliser notre compilateur dans plusieurs branches différentes, et on a regroupé ça dans
D'accord.
GraalVM.
Est-ce qu'il fait le café aussi?
C'est ça.
Non, mais du coup,
Oui,
ça clarifie parce que GraalVM, donc, c'est vraiment le chapeau global, comme on dit OpenJDK.
oui.
Graal, c'est le compilateur, donc plus proche de ce qu'on dirait C1, C2. Je sais pas si vous avez un nom pour le truc qui ressemble à Hotspot, du coup.
Hotspot.
Hotspot aussi. Vous utilisez Hotspot, ok.
C'est ça. En fait, c'est ça. En fait, on n'est pas. On réutilise Hotspot. En fait, on réutilise OpenJDK. Donc, quand on. Le premier axe dont je parlais au début, c'était un compilateur juste à temps différent. Dans
Ouais.
ce cadre-là, la seule partie qu'on remplace, pardon, c'est C2. On réutilise même C1.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment la même VM, c'est juste qu'on plug un compilateur différent à la place de C2.
D'accord. C'est marrant parce que donc c'est venu de C1. Et puis maintenant vous vous êtes dit est-ce qu'on peut faire mieux? Et puis du coup finalement C1 il reste.
C'est
Enfin c'est
ça,
venu
ouais.
pour remplacer C1. Ouais.
Exactement,
Et donc, pour quelqu'un qui du coup voit aujourd'hui quand même une pléthore de distributions OpenJDK,
ouais. Ouais.
donc celle-là, elle a une différence parce que le compilateur est différent, parce qu'il y a l'option Native Image si ça intéresse, et puis il y a l'option Polyglotte. Mais voilà, pour toi, c'est quoi les cas d'utilisation où tu vas dire à quelqu'un, voilà, si tu essaies de faire ça, va GraalVM, stop, quoi.
Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que du coup, ça va être des cas d'utilisation assez différents en fonction de lequel de ces trois axes-là on va regarder.
D'accord.
Et alors, du coup, si je les reprends les mêmes dans le même ordre, d'abord la compilation juste à temps. Donc là, je dirais, c'est vraiment pour faire tourner des applications qui utilisent beaucoup le CPU. Parce que bon, si c'est faire tourner une application qui fait de l'IO, le compilateur, on s'en fiche en fait.
Un peu de travail, ouais.
Mais une compilation qui est assez intensive au niveau du CPU. Et probablement, je dirais, donc du coup, ça va être dans des applications de serveur qui font pas mal de boulot, ou par exemple des applications de compilation distribuée, enfin il y a plein de choses comme ça, ou éventuellement Graal va pouvoir être un peu meilleur que ces deux, et donc produire du meilleur code, et donc faire tourner l'application un peu plus rapidement. Souvent, ça va être des choses aussi où s'il y a beaucoup de pression GC, et le GC est un peu un problème, allié à une application qui utilise beaucoup de CPU, parfois le JIT Graal peut obtenir de meilleurs résultats et mettre un peu moins de pression sur la garbage collection, et donc améliorer les performances de l'application.
Et en fait, ces meilleurs résultats, c'est justement parce qu'il libère ce pouillème de CPU,
ouais,
qui fait que le garbage collector a plus d'espace pour ouais, respirer. Okay.
Pas que, en fait. Pas que. Ouais. Donc, ça peut être, il y a ça. Et le fait qu'en fait, Graal, il a cette optimisation qu'on appelle la partial escape analysis. Alors, je suis désolé pour le français, mais ça fait 10 ans que je bosse pas en France avec personne qui parle
déjà,
français.
Déjà, t'as dit juste à temps, c'est pas mal.
Ouais, j'essaye, mais le français, j'ai un peu oublié. Mais j'essaye. Donc, en fait, c'est une optimisation qui permet de ne pas louer des objets, en fait. Alors, qui existe aussi dans ces deux. Hein. Dans Graal, elle a une particularité qui est que si dans une branche du code, dans ces deux, c'est global. C'est-à-dire qu'en fait, si on peut se débrouiller pour pas allouer l'objet du tout dans une méthode globale, il va le faire. Dans Graal, c'est, il va regarder branche par branche quelque part. Et donc, il y a plus d'opportunités, plus de cas où, en fait, OK, on va devoir l'allouer sur telle branche, mais sur l'autre, on n'en a pas besoin.
Ah, d'accord. C'est pour ça que vous appelez ça partiel?
Ouais, exactement. C'est partiel.
Okay,
c'est pas global, c'est partiel. Et en fait, si on alloue pas, on fait pas de pression sur le GC, tout simplement. Hein, c'est...
Ouais, yeah, okay,
et on réduit de la pression sur le GC et le GC est très content.
D'accord.
Pour pouvoir gérer ces objets-là, tout simplement.
D'accord. Donc on a ce cas d'utilisation-là, ok.
Voilà. Le second cas, donc, si on parle du projet Native Image, donc qui nous permet de prendre une application Java et de la transformer en native, en binaire natif. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Un exécutable, ça veut dire qu'en fait, on a pris tous les bytecodes et on les a transformés en code, mettons, AMD64 ou ARG64, enfin, en fonction de la plateforme sur laquelle on tourne. Donc il n'y aura plus besoin de faire cette compilation juste à temps. Et les cas d'utilisation, en fait, c'est pourquoi faire la compilation avant? Pour éviter de la faire au runtime, du coup, pour démarrer plus vite. Hein. Et donc les cas d'utilisation, ça va vraiment être des cas où on a besoin de démarrer vite. Alors ça va être par exemple des outils command line. Souvent les gens ils faisaient pas d'outils command line avec Java parce qu'ils disaient ah oui mais faut attendre 500 millisecondes, une seconde avant que ça ait démarré, et c'est trop lent. Native Image il va pouvoir utiliser dans ce cas là et l'autre utilisation c'est quand on a peut-être des microservices qu'on va vouloir faire grandir très horizontalement, qui sont pas très gros individuellement, on va dire. On va pouvoir en mettre plein les uns à côté des autres.
Gros ça en mémoire, bon là, cas. Tu penses. C'est ta dimension.
Exactement. Ouais. Exactement. Et du coup, on peut les démarrer très vite et ça peut être utile dans ce cas d'utilisation. Je dirais que c'est ça vraiment les cas les plus clairs. D'accord. Et si on passe au dernier point.
Polyglotte.
Donc, ouais. Pourquoi utiliser polyglotte?
Polyglotte ou alors monoglotte, mais pas Java.
Tout à fait, tout à fait. Donc en fait, les implémentations de langage sur la plateforme GraalVM, autre que Java et encore avec Espresso, il y a beaucoup de conditionnels. Mais donc mettons la version Graal de JavaScript, etc., etc. Les cas d'utilisation, moi, un cas majeur, je dirais que c'est en fait scripter des applications plus larges. Donc en fait, si on a une grosse application Java, mettons un serveur d'application qui peut être peut être customisé pour chaque client ou pour chaque application ou je ne sais trop quoi, et qu'on veut en fait autoriser d'autres personnes que les développeurs principaux à scripter ces comportements, Souvent, c'est plus facile de scripter ça avec un langage léger, on va dire, comme JavaScript, etc., qu'avec Java, et d'exposer toutes les classes internes, etc. Ouais. Et donc ça, c'est un bon cas d'utilisation, parce qu'on s'est débrouillé pour que ça ce cas-là marche bien, en fait. Et donc, on va pouvoir exposer certaines classes Java au script, qui sont JavaScript ou Python, je ne sais quoi. Et surtout, le fait que ce soit polyglotte, alors c'est souvent monoglotte, c'est-à-dire qu'en fait, la customisation est peut-être dans un seul langage, mais le fait que ce soit polyglotte, ça veut dire que le client final, ou la personne qui fait la customisation, en tout cas, elle est libre d'utiliser les différents langages. Et moi, en tant que concepteur d'application, c'est facile de supporter plein de langages sans avoir à développer un module particulier pour chaque langage. Donc ça, c'est, je pense que c'est un cas d'utilisation assez important. Et le deuxième cas d'utilisation, peut-être plus monoglotte, comme tu as dit, ça serait, en fait, des langages réputés lents. Pour cela, on arrive facilement
à faire
beaucoup plus rapide. non, ouais, bon, alors, ça dépend de...
Je parle du trolling, bon, mais...
Je comprends. Non, moi, je parle de langages réputés lents et qui sont vraiment lents. Et là, en fait, GraalVM va souvent avoir des implémentations beaucoup plus rapides. Et ça peut être intéressant pour certains serveurs.
C'est quoi ? C'est les langages qui sont historiquement interprétés avec très peu de just-in-time ?
Exactement.
Je pourrais dire Python, ce genre de choses, c'est ça ?
Voilà, exactement.
JavaScript, après, il y a eu beaucoup de travaux récemment, encore.
C'est
plus difficile de... il y a eu du taf, quoi, de
Google et tout le monde. Non, JavaScript, c'est un langage qui est exécuté très, très rapidement par de nombreux engines. GraalVM n'est pas en reste, mais on peut pas dire que ça soit 10 fois, 100 fois plus rapide que les autres. C'est au même niveau que le reste de la compétition.
Ok. Alors, bon, on a fait un tour en plus que 3 phrases. Et du coup, on va peut-être repasser sur les concepts clés, mais il y en a, je pense qu'on a déjà bien développé. Donc, on a le compilateur que vous utilisez dans l'approche juste à temps. Explique pour les jeunes d'entre nous, le juste à temps, il permet de faire quoi? Donc, Java, c'est, des fois les gens oublient, mais c'est un langage interprété, enfin, à la base.
Ouais, justement, c'est un langage interprété, mais pas que. Voilà, c'est un peu ça l'astuce, c'est qu'en fait, la compilation juste à temps, c'est dire, si du code est utilisé massivement dans une application, pourquoi pas la compiler juste à temps pendant que l'application tourne et ensuite commencer à utiliser ce code compilé. Donc en fait, et il y a beaucoup de langages qui font ça, et notamment on parlait de JavaScript, les implémentations rapides, elles font ça. Pareil pour Java, les bonnes implémentations, elles font ça. Et de plus en plus, toutes les applications de langage un peu dynamique de ce type-là ont besoin d'une compilation juste à temps pour pouvoir être vraiment performante.
Ouais.
Donc là, pour expliquer la chaîne, grosso modo, le compilateur, il reçoit de la VM du bytecode Java. Il le transforme en une représentation intermédiaire qui représente le programme, va appliquer des optimisations, comme celles dont on parlait avant, pour éviter d'allouer des objets, mais ça peut être aussi tout simplement, je sais pas moi, si on voit 1 plus 1, on transforme ça en 2, ça va plus vite. Tout un tas d'options.
D'ailleurs, quand vous faites vos micro-benchmarks, évitez ce genre de choses, parce que le compilateur est souvent plus intelligent que ce que vous pensez. Ça met 0 microseconde. Bah oui, parce qu'en fait, tout le code n'existe pas.
Exactement, ouais. Ouais, ça, c'est une optimisation très, très intéressante. Supprimer du code qui sert à rien. Il y en a beaucoup. Et ensuite, une fois qu'on a fait toutes ces transformations, etc., on va choisir une cible, donc par exemple sur Intel ou MD64, et on va générer du code natif, tel le ferait, je sais pas moi, GCC ou le compilo de Visual Studio, etc. Et ensuite,
d'ailleurs, GraalVM, c'est quoi vos plateformes cibles que vous avez? Parce que Hotspot, du coup, Hotspot classique, la C1, C2, c'est très large, puisque la JVM a été déployée sur plein de choses. Graal, c'est quoi vos CPU
plateformes actuelles? C'est AMD64 et ARM64. Alors, c'est ARM64 Personne n'est d'accord sur comment appeler ces plateformes.
Ouais. Ça s'appelle AMD 64, mais Intel 64 bits, c'est le même.
Voilà, il y a d'autres gens qui disent x86 64 bits. Aussi. Mais bon, ouais. Les processeurs Intel que la plupart des gens ont et que la plupart des data centers utilisent aussi. Voilà, c'est Intel ou ARM, si je le dis rapidement. Alors, on a eu d'autres plateformes, mais qui sont venues et reparties. Il y a eu Spark, donc la plateforme de Sun et Oracle. Il y a eu, on a eu des trucs pour des GPU. On a allé dans
des GPU.
Ouais, des GPU. Il y avait à une époque, c'était AMD, je crois, avec qui on avait collaboré, qui voulait faire un back-end pour des GPU. Il y a eu tout un tas de choses.
Et du coup, le programme 100% compilé pour tourner sur le GPU ou du partiel CPU-GPU
Alors, en fait, disons des méthodes entièrement compilées pour le GPU.
Okay.
Leur idée, c'était de prendre certaines méthodes et puis, par exemple, avec tout l'API Stream, vous pouvez se dire, mais peut-être que les petits kernels qui font du map, du reduce, etc., on pourrait les compiler vers du code GPU et faire tourner ça sur le GPU.
D'accord.
Donc mais les targets principales, c'est celles qu'on trouve dans les data centers. Hein. Faut pas se mentir. Ouais, ouais. Voilà.
Ok. Donc on a vu, j'avais mis pourquoi pas basé sur Hotspot, mais on a vu qu'en fait c'était basé sur Hotspot, juste la partie compilation est séparée.
Mm-hmm.
Du coup, ça utilise les mêmes garbage collectors, les ramasse-miettes qu'on connaît. Qui sont dans OpenJDK, c'est ça?
Si on parle toujours du cas d'utilisation où la seule chose qu'on fait, c'est qu'on prend le compilateur juste à temps, Graal. Si on parle de Native Image, par exemple, là, en fait, Hotspot va être utilisé, mais uniquement pendant qu'on construit l'image. C'est-à-dire que pendant qu'on construit l'image, on va utiliser toute une infrastructure qu'on a dans Hotspot pour parler avec le compilo. Mais une fois que l'image tourne, une fois qu'on on a lancé l'image, il n'y a plus d'hotspot là. Il y a une autre machine virtuelle qu'on on appelle SVM. Donc, parfois, on entend les gens dire soit Native Image, soit SVM.
Ouais.
Native Image, c'est l'outil.
Le nom Substrate au final ou...
Donc Substrate VM, on l'utilise. En fait, la différence, c'est que, disons qu'on pourrait dire que Native Image, c'est l'outil qui transforme un jar en un exécutable. Et quand cet exécutable tourne, il tourne sur Substrate VM. On pourrait, je pense, que ça serait ça la façon d'expliquer.
Bon, on y retournera juste un tout petit peu après. Pourquoi, du coup, alors à l'époque de Maxine, pourquoi en Java et pas en... Parce que donc le C1, je sais pas, mais C2, en tout cas, c'est du C.
Ouais, c'est du C++ même.
C'est du C++.
C'est du C++ un peu différent de dont les gens. Moi, j'appelle ça du C++ Hotspot, c'est un peu particulier. Mais oui,
c'est l'utilisation qui fait que ça ressemble pas à du code C++ pour quelqu'un qui connaît C++, c'est ça?
Non, c'est juste que c'est une vieille code base et du coup, c'est du vieux code et du coup, ils n'utilisent pas la librairie standard C++ par exemple.
D'accord.
Ils font toute leur propre structure, etc. Ils utilisent très très peu de templates, même si ça c'est quelque chose qui change maintenant de nos jours. Il y a de plus en plus de templates utilisés dans Hotspot. Alors, pour répondre à la question pourquoi Java, alors on peut toujours dire pourquoi pas. Mais ça fait partie un peu de la réponse, disons que je dirais, alors d'une part, en fait c'est pas si étonnant que ça. En fait, les machines virtuelles faites en Java, ça date des années 90. Hein. Il y avait déjà JAX RVM, qui était une machine virtuelle aussi pour des projets de recherche. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ça gravitait un peu autour d'IBM, je crois.
JAX, c'est IBM, ouais, ça c'est.
Ouais, c'est ça. J'étais pas sûr. Je vais pas dire de bêtises, mais oui. Et donc c'était déjà une machine virtuelle faite en Java à l'époque. Et ensuite, Sun, ils avaient Maxine, dont on a parlé plus tôt, qui était pareil, une machine virtuelle faite en Java. Pourquoi quand même? C'est la question. On peut le faire, d'accord. Certes, mais pourquoi le faire? Nous, en fait, c'était le langage de prédilection et on se disait, si on aime bien un langage et qu'il n'est pas complètement, c'est pas complètement un mauvais cas d'utilisation, pourquoi pas? Et d'autre part, on se disait, ce qui est intéressant avec Java, c'est que c'est un langage où il est vraiment facile de développer, facile de, c'est assez facile de changer les choses parce qu'il y a beaucoup de, d'outils, en fait, autour de Java, qui permettent de facilement faire du refactoring, facilement, très bons IDE, des très bons profilers, des très bons, tous les outils sont assez bons, la plateforme Java. Et donc, on se disait, pourquoi pas profiter, en fait, de tout cette manne d'outils et de, qui nous permet de développer plus vite.
D'accord.
Et donc c'est pour ça, en fait, qu'on a utilisé ce langage. Et finalement, c'est assez adapté, finalement, à ce genre de code. Il n'y a pas de souci, hein, avec Java.
Il y a un avantage à Java en Java, genre le, voilà, quand la JVM est écrite, ou alors, en fait, les concepts sont assez séparés, donc, que ton moteur, il soit fait d'une manière ou d'une autre. C'est pas si alors, grave.
Ça dépend. Alors, on peut y voir un avantage, c'est-à-dire qu'en fait, disons que si le compilos compile lui-même, il s'améliore lui-même quelque part.
Ouais, il y a ça.
Mais il y a une espèce de synergie interne comme ça où on va faire tourner le compilos plus vite parce qu'on l'a plus optimisé, etc., etc. Mais bon, ça c'est intéressant, bien sûr, plus d'un point de vue recherche que après dans la pratique, c'est marginal, on va dire. Je sais pas si je pense que c'est intéressant intellectuellement. Après, est-ce que ça apporte un avantage décisif? Je dirais non. C'est pas d'avantage après, mais il y a pas de désavantage non plus, quoi.
Ouais, ok. Après, moi, j'ai entendu des gens dire ces deux. Il faut quand même faut s'accrocher pour suivre la base de code. Alors, si tu parles aux gens au cœur de ils sont ça, ils disent, bah non, enfin, on s'habitue, mais après, enfin, de ce que j'ai pu voir, moi, de gens qui voulaient contribuer un peu à l'externe, et bon, c'est pas nécessairement super modulaire, et on sait quand on touche quelque chose qu'il va pas y avoir de répercussions assez fondamentales.
Alors ça, c'est peut-être moins à propos de Java, enfin, peut-être, je sais pas.
Mais, ouais, c'est pas lié au langage, mais plutôt à l'histoire de...
Exactement, et c'est plus. Et en fait, après nous, Graal avait l'avantage de venir derrière, c'est-à-dire qu'en fait,
ouais, bien sûr.
Quand on a conçu Graal au début, c'était des problèmes qu'on voulait éviter dans Graal, c'est-à-dire qu'on savait que c'était des problèmes dans ces deux, effectivement, que c'était du code qui avait beaucoup d'années, parce que ces deux, à la base, c'est un compilateur C++ du début des années 90. Hein. C'est même pas un compilateur Java à la base.
Ah d'accord.
Et donc c'est vraiment très vieux, et on voulait essayer justement de faire quelque chose de plus modulaire, de plus facile à comprendre, à développer, à changer. Mais ça c'est vraiment, oui, on avait le retour d'expérience et on a essayé de faire mieux. Voilà.
D'accord. Alors ça c'était le compilateur utilisé dans le cadre de Just in Time. Là, on va parler donc Graal qui peut faire tourner d'autres langages, d'autres langages qui ne targetent pas la JVM. En fait, tout ce qui est bytecode est équivalent en fait pour un compilateur Java en général, mais quoique d'ailleurs, parce que j'imagine qu'il y a des sémantiques du langage qui font que les bytecodes ont des particularités. Voilà, quand on veut cibler Python, JavaScript, etc., il y a un truc qui s'appelle Truffle.
Ouais.
Vas-y, zoom un peu. Ouais.
Alors, ouais. En fait, Truffle, ça va être plus adressé aux gens qui veulent implémenter des langages. En fait, on a séparé un peu les noms. C'est-à-dire, en fait, Truffle, c'est l'API qui permet d'implémenter de nouveaux langages. Et ensuite, plus pour les utilisateurs qui veulent juste utiliser Python, par exemple, y a un API qu'on a appelé Polyglot qui permet d'utiliser du Python depuis. Donc c'est une API Java, hein. Donc on va dans Java et on dit je veux créer un contexte Python et je veux exécuter cette ligne de Python qui fait je sais pas moi print hello world et ça exécute print hello world. Donc ouais, il y a tout cet aspect là. Alors en fait dans ce petit écosystème, donc comme je dis, il y a un API pour ajouter des langages. Mais après, nous, on fournit déjà un certain nombre de langages dans la plateforme qu'on a programmé nous-mêmes ou en collaboration avec d'autres. Mais donc, il y a, pour les lister un petit peu, il y a JavaScript, Ruby, R. Je sais pas si tout le monde connaîtra R, mais c'est un langage de stats plutôt.
Voilà, c'est ça dans tout ce qui est enfin, les gens qui font du machine learning, ce genre de choses, c'est un langage qui est largement utilisé. Ouais.
Y a Python. Il y a aussi quelque chose d'un peu plus étrange, c'est LLVM. C'est-à-dire qu'en fait, on prend du bytecode LLVM. Le bytecode LLVM, en fait, c'est LLVM, donc c'est un compilateur aussi, qui est utilisé, par exemple, dans C-Lang. Qui va compiler un langage, qui peut le compiler en code machine, comme tous les compilos, mais il a aussi, disons, une représentation interne, qui s'appelle le bytecode. Et donc, on peut prendre ça et l'interpréter aussi.
Cette représentation interne, elle est plutôt au niveau bytecode ou plutôt au niveau représentation interne dont tu parlais où ton compilateur conceptuellement il optimise et après il va appliquer AMD ou AMD64?
C'est plutôt la représentation interne de LLVM.
Okay.
Avant qu'il commence à faire des choses qui soient spécifiques. À une cible en particulier.
Un petit peu plus bas niveau que le bytecode tel qu'on pourrait le connaître.
Ça ressemble plus à une espèce de code machine, d'une machine assez bas niveau. C'est beaucoup plus bas niveau, par exemple, que la machine virtuelle Java. Ça va plus être des pointeurs, des accès en mémoire, des trucs comme ça, quoi.
Ouais.
Et d'ailleurs, un peu similaire, un autre langage qu'il y a sur la plateforme, c'est WebAssembly, WASM.
Ouais.
Et du coup, ce que aussi, j'avais oublié, mais ce sur quoi je travaille, c'est Java lui-même, en fait, sous forme de langage. Donc c'est pas le langage Java, c'est la machine virtuelle Java, c'est une petite distinction, mais on prend pas une source Java textuelle, on prend le résultat de la compilation sur les points classe, les fichiers D'accord. classe, donc les bytecodes, et c'est ça qu'on va pouvoir interpréter sur cette plateforme. Donc, pour expliquer un peu Polyglot et Truffle, alors le principe, c'est que quand moi, par exemple, je veux implémenter Java, mettons, ou prenons un autre langage parce que c'est plus facile à se représenter. Prenons Ruby, allez. Si donc, moi je veux implémenter Ruby, ce que je vais faire, ce que Truffle va me demander de faire, c'est d'implémenter un interpréteur Ruby qui va interpréter soit un arbre syntaxique, soit du bytecode. Dans le cas de Ruby, ça sera plus un arbre syntaxique. Donc en fait, je vais prendre mon code source Ruby, je vais le lire, en construire un arbre syntaxique, et ensuite sur chacun des nœuds de l'arbre syntaxique, je vais implémenter une méthode qui va, on va dire, execute, hein, et qui va exécuter récursivement mon arbre syntaxique, et donc me donner un interpréteur Ruby. Si j'ai bien fait toutes les sémantiques, normalement je devrais avoir un interpréteur Ruby qui marche.
D'accord. Cet interpréteur, il est en Java, pour info.
Ouais, exactement. Alors, ouais, strictement, ça doit être du bytecode Java. Donc, d'accord. Peut-être qu'avec d'autres langages de la JVM, ça marcherait, mais pour être honnête, on n'a pas essayé. Personne n'a essayé. Et je ne sais pas si l'API est bien fait pour accepter d'autres langages.
D'accord.
Normalement, c'est Java. Et donc, j'ai implémenté cet interpréteur en Java. Et la promesse que me fait Truffle en retour, c'est qu'il me dit, avec ton interpréteur, je vais te donner un compilo. Ce qui est une promesse intéressante, parce que du coup, ça veut dire que souvent dans des systèmes, on a besoin de faire d'abord un interpréteur, et une fois qu'on en a marre d'avoir de mauvaises performances, on écrit un compilo. En général, ça prend 10 fois plus de temps que d'écrire l'interpréteur. Et donc en fait, c'est une promesse intéressante. Et comment ça marche, juste pour, parce que je pense que c'est intéressant de se mettre ce genre d'idée dans la tête, en fait, c'est de dire... l'interpréteur en Java, c'est une fonction, hein, c'est une méthode, qui prend comme argument un arbre syntaxique et les arguments de la fonction qu'on essaie d'interpréter. Et l'idée, c'est de dire, si on prenait cette fonction et qu'on essayait d'en faire une compilation spécialisée à un arbre syntaxique particulier. Donc on prend l'arbre syntaxique, on le considère comme une constante, et on continue la compilation. Et donc forcément, l'arbre syntaxique, mettons que l'arbre syntaxique, c'est juste A plus B, qui seraient des paramètres de la fonction. Le premier nœud, ça va être plus A. Et donc forcément, c'est une constante, on vient de le dire. Et le A plus B, il va d'abord faire gauche.execute plus droite.execute. Et en fait, comme gauche, comme a, comme la racine était une constante, ben, ça veut dire que gauche c'est aussi une constante. Donc on sait que c'est le nœud qui permet de lire le paramètre a. Donc on va et tout ça, en fait, tout va finir par s'inliner. Et donc tout le code qui va nous rester une fois que tout va être simplifié, ben, le seul code qui va rentrer, qui va rester, c'est plus, enfin l'opération plus au niveau de la représentation du compilo. Et donc ben le code machine, ça sera vraiment l'instruction plus du CPU et rien d'autre, pas trois appels virtuels, etc. Et en fait, c'est l'idée, c'est en fait de pousser ce système et de le faire de façon très systématique. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas rentrer dans ces détails, mais il y a des règles très simples qui permettent de savoir à la personne qui implémente le langage qu'est-ce qui va se passer pendant cette évaluation, enfin ce processus de spécialisation. Et donc, si on les a en tête, on sait comment écrire son interpréteur de façon à ce que cette phase-là se passe bien et qu'on ait du bon code compilé.
D'accord. Donc, dans la méthode execute,
ouais,
on peut écrire n'importe quoi, mais ouais, si on connaît un peu la façon dont Truffle, en fait, réfléchit, on va pouvoir écrire du code qui va se compiler beaucoup plus, de manière plus performante.
Exactement. Qui va pouvoir, on va pouvoir compiler une version de l'interpréteur pour chaque méthode du programme Ruby qu'on essaie d'exécuter et chacune de ces spécialisations seront idéalement du code parfaitement adapté et qui fait rien de plus que ce qui est nécessaire pour exécuter cette fonction Ruby ou cette D'accord. autre.
Et est-ce que est-ce que Graal, il est le compilo, du coup, il est quelque part là?
Ouais, c'est en fait tout ce processus va être fait par Graal. En fait, le processus dont je viens de parler, où on considère tel argument comme une constante, et ensuite on déroule. Donc, si ça c'est constant, ça veut dire que ça c'est constant, etc. Du coup, on peut dire, vu que j'ai ajouté deux constantes, je connais le résultat, etc. Donc, tout ce processus-là, en fait, fait par Graal. En fait, Truffle, il contrôle Graal. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre Graal et il va le mettre en situation de faire ça. Et il va dire, allez, continue. Continue à inliner là. Ça, c'est une constante. D'accord. Si, je t'assure, c'est une constante. Et du coup, il va pousser le compilo à faire ce processus-là. Et donc, c'est toute l'infrastructure de compilation qui est réutilisée.
D'accord. Du coup, là, il n'y a pas de phase bytecode, en fait, du tout.
Alors, en fait, c'est oui et non. Alors, en fait, c'est oui. Oui, dans le sens où, en fait, c'est ce qu'on voulait éviter. On voulait éviter de passer par une phase où on va traduire, par exemple, Ruby en bytecode, et comme par exemple le fresh JRuby, je crois. JRuby, ouais, c'est ça. Ils ouais, prennent du Ruby, ouais, c'est ça. Ils transforment en bytecode, et ensuite, ils attendent que le reste de la VM fasse son travail. Ce qui est une approche tout à fait valide, hein. Mais nous, notre idée, c'était de dire, on va éviter de faire ça, et au lieu de ça, en fait, pourquoi on va l'éviter? C'est, en fait, parce que il y a tout ce processus de traduction, et derrière, la machine virtuelle Java, il va falloir attendre que ce code soit exécuté de nombreuses fois. Peut-être que la machine virtuelle Java, elle n'est pas vraiment optimisée pour ce genre de pattern de bytecode, ça va pas. Et là, nous, on se disait, on va pouvoir être plus directif sur ce qu'on va vouloir faire, avec nos interpréteurs. Donc, il y a du bytecode qui est impliqué, c'est celui des méthodes qu'on a écrit pour notre interpréteur. Mais ce bytecode, il n'est pas généré à la volée. Il a été écrit par la personne qui a implémenté Ruby, plutôt que généré spécifiquement pour chaque méthode
D'accord.
Du programme qu'on essaie de faire tourner.
Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois compiler mon... Alors, j'ai un programme, mettons, Ruby, on avait dit. Donc, j'ai mon programme Ruby, il faut que je fasse un compile programme.rb, ou alors c'est d'abord interprété?
Exactement. Ouais. En fait, en interne, ça va être le même process que d'habitude, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, au début, ça va vraiment être interprété. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment construire la syntaxique avec des objets qui sont des classes Java, et on va vraiment appeler, comme dans un programme Java standard, il y a rien de spécial là, on appelle vraiment la méthode execute, et ça fait des invocations virtuelles sur chaque nœud. Et D'accord. c'est pas super rapide, mais donc, ça marche, c'est motivant, ça marche. Okay. Et ensuite...
Non, ça fait pré-C1. D'ailleurs, il a un nom dans OpenJDK, ce pré-C1, le truc qui vraiment interprète Java.
Pour moi, c'est l'interpréteur. Alors, après, il y a plusieurs interpréteurs. Le plus utilisé, c'est ce qui s'appelle le template interpréteur dans Hotspot. Mais je ne sais pas s'il y a un nom court comme ça, par interpréteur. Okay. Donc oui, il y a de l'interprétation. Donc notre programme Ruby va être interprété. Et au bout d'un moment, on va se rendre compte, OK, tel arbre syntaxique, on n'arrête pas de l'exécuter, c'est très lent. et du coup, on va faire le processus que j'ai décrit avant. On va se retrouver avec du bon code machine. Et à partir de ce moment-là, c'est celui-là qu'on va utiliser à la place.
D'accord. Et c'est une question que j'avais d'ailleurs au niveau Graal et le JIT, c'est qui est-ce qui se dit à un moment, disons, ce code, il est quand même utilisé vachement souvent.
Ouais.
Est-ce que c'est Hotspot et est-ce que dans ce cas-là, c'est Truffle ou est-ce que c'est il y a un truc que j'ai pas vu? Ouais.
Bah tout à fait. C'est-à-dire que dans le cas standard de code Java, ça va être Hotspot qui va se rendre compte qu'il y a ses propres politiques internes pour décider quand est-ce que quelque chose vaut la peine d'être compilé. Nous, on touche pas, on laisse faire. Et à ce moment-là, on a juste un message, il envoie un message au compilo, il dit faut compiler ce truc-là et on fait. Et dans Truffle, ça va être plus dans le framework Truffle lui-même.
D'accord.
On peut imaginer que grosso modo l'objet racine qui représente une fonction, en interne il a un petit compteur. Et puis à un moment quand le compteur est trop grand, hop, il va faire compiler tout ça.
Et vous avez pareil des phases de compilo où c'est genre vous allez à 11, ou vous compilez au mieux possible dès que le compteur est trop grand.
En fait, on a suivi un peu le même processus, j'ai l'impression, que beaucoup de systèmes. C'est-à-dire qu'au début, on faisait ça, comme tu dis, on allait direct au super code. Puis on s'est rendu compte, au démarrage, c'est quand même un peu lent. Et du coup, on a commencé à introduire des phases de compilation. Où au début, on va compiler vite, mais pas très bien. Et ensuite, on va compiler plus lentement et mieux pour avoir en fait une courbe de démarrage un peu plus lisse plutôt que très lent, très lent, très lent, très lent, très lent, très lent et finalement rapide. Ouais. On va avoir très lent, moyen et rapide. Et c'est quand même plus agréable à utiliser comme système.
Et un autre truc qui est toujours qui est jamais trop facile, c'est quand on construit sur une VM et la JVM en particulier, elle a des types primitifs qui sont en l'occurrence calqué sur Java. Et donc, quand on veut faire un langage qui a des types primitifs un peu différents, il faut les reconstruire par-dessus, donc c'est moins performant. Est-ce qu'il y a des choses autour de Truffle là, qui aident?
Alors, oui et non. Alors, c'est-à-dire que, oui, au final, comme l'interpréteur il est écrit en Java, il va falloir utiliser des types Java, d'une façon ou d'une autre. Donc, effectivement, il va falloir utiliser des types Java. Après, on a pas eu trop de problèmes, je dois dire, avec ça au final. Dans le sens où, en fait, et c'est peut-être là, en fait, aussi un aspect intéressant de Truffle, c'est-à-dire qu'en fait, Truffle utilise énormément ce qu'on appelle la spécialisation. Alors, c'est une autre spécialisation que celle dont j'avais parlé avant, mais en fait, j'ai dit au début, on construit l'arbre syntaxique et ensuite on l'exécute. Mais en fait, cet arbre syntaxique, il est pas statique. En fait, on le change en permanence. Et donc en fait, on va pouvoir s'adapter justement aux types spécifiques qui sont utilisés dans le programme. Et du coup, on n'aura pas des problèmes de, par exemple, en JavaScript par exemple, un entier c'est aussi un peu un objet. Du coup, on aurait tendance à tout faire objet. Dans ce cas-là, c'est du boxing partout et tout est lent. Non, en fait, on va pouvoir se dire si on a l'impression qu'à cet endroit du programme on voit toujours des vrais entiers 1, 2, 3, 4. En fait, on va vraiment utiliser des nœuds dont la méthode exécute, leur signature, c'est entier, entier, retourne entier. Il n'y a pas de boxing, il n'y a rien du tout. D'accord. Et c'est uniquement si on s'aperçoit que en fait, c'est pas des entiers, on va pouvoir réécrire tout ça dans une version un peu plus générique, mais un peu plus lente. Et donc, il y a beaucoup d'adaptations comme ça de l'interpréteur lui-même qui se traduisent en des adaptations du code compilé, bien sûr.
Ça me fait penser à la désoptimisation, réoptimisation.
C'est tout à fait ça.
Et j'imagine que de façon grave, le compilo, il a aussi ce genre de choses-là, même pour du bytecode pur et dur.
Bien sûr. Ouais. En fait, c'est un des aspects phares de Truffle, c'est-à-dire qu'en fait, on expose un peu, à travers un API, on expose les capacités à faire de la désoptimisation, réoptimisation. Et donc, en fait, on donne le contrôle à la personne qui fait son petit interpréteur de dire je vais pouvoir faire les choses rapidement, mais s'il y a quelque chose qui se passe mal, je vais pouvoir déoptimiser et continuer avec une version plus générique.
D'accord. Je veux retourner à Espresso, mais juste avant, enfin, une des promesses dans la doc, en tout cas, c'est qu'on peut interagir interlangage et que c'est magique, ça se passe super bien. Alors, ça veut dire quoi, ça?
Ouais. Alors, en fait, quand on implémente un langage dans ce système, on est censé implémenter une interface qu'on appelle d'interopérabilité, qui en fait décrit un certain nombre d'opérations sur les objets de notre langage ou les valeurs de notre langage. Mettons toujours Ruby, mettons par exemple sur un objet Ruby, on peut lire je sais pas comment ils appellent ça, un champ. On peut lire des membres d'un objet. On peut les écrire, bien sûr. On peut peut-être les exécuter. On peut trouver le énième élément d'une liste ou d'un tableau. Donc, il y a toutes ces opérations un peu primitives comme ça, dont on pense qu'elles sont essentielles, on va dire. Et en fait, chaque implémenteur de langage les implémente et dit, voilà, bon, ben, si vous avez besoin d'accéder à une propriété en Ruby, il faut faire ça, 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 ça. Ça, c'est l'implémentation. Et donc, chaque langage fait ça. Et du coup, chaque langage, au moment où il fait aussi ses opérations, du genre, ben Ruby va aussi accéder à la propriété, si l'objet auquel il se retrouve, dont il veut lire une propriété, n'est pas un objet Ruby, mais un objet qu'il ne connaît pas, et ben il va utiliser cette API en disant, ben, décris-moi comment il faut accéder à une propriété pour ce type d'objet, et hop, je vais dans mon app syntaxique intégrer la procédure pour accéder aux propriétés. Et c'est intéressant pourquoi, plutôt que de faire un appel au langage et de lui dire accède à cette propriété, en fait non, j'intègre dans mon propre code la sémantique de l'autre langage. Et du coup, tout ça, par le processus que j'ai décrit avant, tout ça, ça va se compiler de la façon la plus efficace possible. Et l'autre langage peut me décrire des stratégies. Il peut me dire, d'abord, on va essayer de trouver la propriété sur cet objet-là, et ça, c'est le plus rapide. Mais si elle est absente, dans ce cas-là, on va déoptimiser et on va utiliser une version qui, par exemple, recherche la propriété dans le prototype ou je ne sais trop quelle sémantique du langage. Et donc, en fait, chaque langage décrit un peu les meilleures stratégies d'implémentation et les autres langages peuvent les réutiliser. Et du coup, chaque langage peut se passer de ses objets ou les objets des autres langages, l'un l'autre, et appeler, du coup, lire des propriétés, appeler des fonctions, etc. etc.
D'accord, c'est super clair, je comprends maintenant. Alors, Espresso, mais pourquoi faire du Java sur Java? On l'avait déjà. alors, pourquoi et ensuite, en quoi c'est différent du coup? Parce que tu es en train de... Ouais, voilà, je te laisse avec ça.
donc, Espresso, pour faire rapidement, c'est tout ce que je viens de décrire par rapport à l'implémentation de langage, sauf que le langage qu'on essaye d'exécuter, c'est les bytecodes Java. Donc en fait, Espresso, à son cœur, c'est une boucle while, un switch et des cases pour chaque bytecode. Et ensuite, on fait le prochain bytecode. C'est tout.
Et t'as mis tout ce temps-là pour le faire.
Exactement. et bien sûr, qui essaye d'utiliser tous les outils que Truffle nous donne. Alors, pourquoi? je pense qu'en fait, pourquoi il faut regarder un peu dans quel cas on voudrait utiliser ça. Parce qu'il y a toujours la raison du développeur. Pourquoi? Ben parce que c'est intéressant à faire, mais ça, c'est pas forcément une bonne raison, à part pour les projets du dimanche. ben parce qu'en fait, ça permet d'utiliser les langages Java à travers l'API Polyglot dont j'ai parlé avant. Et ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, si on revient à l'exemple de l'idée, j'avais une grosse application et j'ai développé un système qui permet à mes clients de la customiser avec du JavaScript, avec du Ruby, etc. Mais en fait, grâce à Espresso, aussi avec du Java. Parce qu'en fait, le même API, les mêmes outils, etc. vont marcher aussi avec du Java. Et c'est là que ça devient intéressant parce que parfois, on a développé tout ce système de customisation avec des langages de scripting parce qu'on s'est dit, mais les gens qui vont faire la customisation, c'est pas des développeurs Java, du coup, on veut leur épargner tout ça. Puis en fait, on se retrouve à avoir, en fait, c'est vraiment des développeurs Java et eux, ils veulent toute la puissance du Java. Et du coup, ça permet d'ouvrir cette fenêtre-là. Et donc, d'aussi faire participer Java au même niveau que JavaScript, Ruby, R, etc. Et d'utiliser aussi, par exemple, le système d'interopérabilité dont j'ai parlé avant, etc.
D'accord.
Et parce qu'en fait, avant, c'était...
Concrètement, alors avant, mmh. l'interrompre, ça c'est un point intéressant, mais le... C'est-à-dire que tu vas leur dire, donnez-moi un point Java ou un ensemble de points Java et pas un point classe nécessairement.
C'est si, plutôt des points classe et des points Java. Des points classe.
Donc ils ont compilé, enfin tu leur files un Java, mmh. mais on pourrait l'intégrer au... à l'appli. Ah oui, mais il faudrait la redémarrer ouais. l'appli.
Mais du coup, et puis surtout, ça serait une intégration spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait, ça serait il faudrait développer un truc Java. Alors qu'en fait, là, l'intégration se fait de la même façon. C'est le même code qui va lancer du JavaScript et qui va interagir avec le JavaScript, qui bien sûr ne ouais. peut pas être fait directement en Java, c'est pas le même langage. En fait, la même interface, elle va pouvoir être utilisée pour du Java aussi.
D'accord.
Et d'autre part, on n'en a pas parlé, mais la plateforme Truffle, elle promet aussi d'avoir des outils qui marchent, par exemple, je sais pas moi, un profiler ou un debugger qui marche avec tous les langages de la plateforme Truffle. Mais du coup, les mêmes D'accord. outils de debugging, de profiling, etc. vont marcher aussi pour Espresso. Et donc si dans mon application imaginaire, j'ai aussi un truc qui, par exemple, me permet de faire du monitoring et de voir quel code utilise trop de CPU ou... de débugger, par exemple, les extensions. Au lieu d'avoir à développer un chemin complètement différent pour le Java, en fait, je peux utiliser les mêmes API, les mêmes outils pour ces composants Java-là. Donc, ça, je pense que c'est vraiment le cas principal, la raison principale. Et en fait, ça se voyait vraiment avant, parce qu'avant, on disait toujours, il y a toute cette plateforme et tout, vous pouvez faire toutes ces choses, c'est extraordinaire. Sauf Java. Et après, les gens étaient là, ils disaient, mais je comprends pas, GraalVM, c'est une VM Java. Pourquoi sauf Java? Parce qu'en fait, on avait ce problème de niveau. En fait, Java, c'était le langage d'implémentation et pas le ouais. langage. Enfin, on avait ces espèces de deux niveaux et ça nous a permis de combler ce cas et de dire, ça marche dans les deux cas, il n'y a pas de question à se poser.
Et si, juste, je pensais à un truc. Si, alors, on est quelques années dans le futur, Espresso super mature, super optimisé, machin. Est-ce que on pourrait se dire, en fait, il y a des morceaux de GraalVM aujourd'hui qu'on va enlever et on va tout unifier derrière Truffle?
Ou c'est... Alors, dans l'absolu, on pourrait, je pense, mais c'est...
Ça remplacerait plus de morceaux d'hotspot, en fait, ça, j'ai l'impression.
Ça, oui, voilà, c'est ça, en fait, c'est ça. Mmh. Parce qu'en fait, c'est disons que si je veux décrire Espresso plus d'une façon technique, en fait, Espresso, ça réimplémente exactement le périmètre d'Hotspot et rien d'autre.
Ouais.
En fait. Oui, alors, on pourrait se dire que dans un futur hypothétique, ça pourrait être capable de remplacer Hotspot, mais on n'en est vraiment pas là. D'accord. Et c'est pas forcément le but aujourd'hui.
Ouais. Donc. Okay.
Mais dans l'idée, oui, c'est un peu ça. Mais c'est pas le but. C'est pas vraiment le but. Et un autre cas d'utilisation qui je pense peut être intéressant, c'est en fait de dire, mais en fait cet interpréteur de bytecode Java, Espresso, il fonctionne dans Native Image. Et donc ça veut dire que si on l'intègre dans Native Image, il peut charger des bytecodes au runtime.
Ouais.
Et c'est intéressant pourquoi ? Parce qu'en fait Native Image la limitation, et même presque sa raison d'être, en fait, c'est de ne pas charger de bytecode au runtime. Et donc, en fait, avec Espresso, c'est un peu plus flou. En fait, on peut charger des bytecodes au runtime. Alors après, il faut bien faire la distinction, c'est pas tout à fait le même environnement, etc. Mais ça devient possible. En tout cas, on peut commencer à penser de charger des bytecodes au runtime.
Et alors, parce que ça, c'est intéressant, je t'avoue qu'on s'est gratter la tête quand on couvrait les nouvelles, les news, c'est genre, ouais, bon, ok, pourquoi, c'est quoi l'intérêt? Mais un des points, donc, de la compilation, d'exécutable, la native image, c'est, tout a été compilé, du coup, j'ai pas de just-in-time compiler embarqué, j'ai pas à garder les statistiques d'usage, tiens, ça, c'est très utilisé, etc. Du coup, ça explique aussi beaucoup pourquoi on gagne en utilisation mémoire, parce que toute cette partie-là, finalement, prend de l'espace mémoire. Donc, quand tu remets Espresso, qu'est-ce qui se passe? On voit, du coup, une consommation mémoire plus haute.
Forcément, Espresso va utiliser un peu de mémoire. pour lui-même. Donc effectivement, ça va vraiment dépendre des cas. Mais en fait, je pense qu'il faut voir ça comme en fait la possibilité d'avoir c'est paramétrique, c'est plus tout ou rien en fait. Disons que Native Image c'est tout, c'est-à-dire quand tout est compilé en natif à l'avance et du coup rien ne peut utiliser des fonctions dynamiques. Et certes, ça a des avantages que tu viens de décrire, mais parfois, en fait, on se dit, ah, j'ai la majorité de mon code, je veux l'utiliser de cette façon-là parce que ça m'apporte tout un tas d'avantages. Mais en fait, ça serait quand même utile de donner quelques points d'extension pour de plus petites parties de l'application, etc. Et en fait, Espresso, ça permet d'avoir cette variable d'ajustement et de dire, OK, on va laisser en dynamique que cette partie-là, qui peut-être ne sera pas utilisée dans chaque cas
Dans chaque
d'utilisation. Peut-être qu'il y a
usage.
plein de cas d'utilisation de circuits qui ne l'utilisent pas, et puis, ah, il y a quand même deux, trois circuits qui sont intéressants et qui vont marcher de cette façon-là. Donc ça permet en fait d'avoir un peu plus de flexibilité et de ne pas en fait avoir la contrainte, c'est tout ou rien.
À un moment, tu te disais, bah voilà, Truffle, il interprète, et puis après, il a ses phases de compilation. Et en tout cas, dans ma tête, je me disais que du coup, avec Graal, en tout cas en just in time, tout ça se mélangeait et ça faisait une compilation nette. Dans le cas Substrate, enfin dans le cas Native Image, ton programme principal, il a déjà été compilé, donc il n'y a pas moyen d'inliner. Donc il y a des interactions un peu différentes à ce niveau-là, du coup.
Ouais, bien sûr. Ouais, ben oui, parce que disons que il y aura pas d'inlining entre le programme principal et le reste parce que c'est des mondes différents, quoi. C'est d'ailleurs un des problèmes, entre guillemets, d'Espresso, c'est qu'en fait, quand on fait du Java sur du Java, c'est très difficile de s'y retrouver entre de quel Java on parle. Parce que d'habitude, on dit, ah ben là c'est le Java, et là c'est le JavaScript. Ok, c'est très clair, il y a deux mondes différents. Et quand là c'est Java et là c'est Java, il faut. Nous, on parle du Java hot et du Java client, en fait. Donc, il y a la couche, l'environnement Java exécuté par Espresso et l'environnement Java exécuté par l'autre.
D'autres points sur Espresso ou on passe à natif?
Non, je pense que le dernier point qui peut être intéressant pour les gens, c'est de comprendre que comme il y a ces deux mondes, en fait, on peut un peu ils sont complètement séparés. Et on peut aussi créer plusieurs contextes Espresso si on veut. Et donc, en fait, on peut avoir plusieurs contextes complètement séparés. Il y a rien qui est partagé. Les classes sont pas partagées. Je veux dire, il est même possible, par exemple, de prendre du Java 17 et de faire tourner un contexte Espresso Java 8. C'est tout à fait possible. Et le code dans Espresso, il va tourner exactement comme Java 8 l'aurait fait, même si le reste de la plateforme, c'est du 17. Et puis, à côté de ça, on peut mettre un contexte Java 11, par exemple. Bah, donc, comme ils sont complètement isolés, ça permet de faire ce genre de
Ils sont
choses-là.
isolés, mais quand on dit qu'en polyglotte, on peut faire discuter avec les objets des autres, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on désisole?
Alors, effectivement, on peut parler de l'un à l'autre. Après, c'est une barrière assez. Enfin, là. Disons qu'il n'y a pas trop de mélange. En fait, au niveau de l'implémentation, il y a du mélange, donc on arrive à inliner le code de l'un dans l'autre. Mais au niveau de l'utilisation, de l'interface que ça nous apporte, c'est quand même très isolé. Donc on est clair sur le fait que c'est un objet qui vient d'autre part, etc.
C'est la fin de la première partie. Nous enchaînerons la deuxième partie avec une discussion autour de GraalVM Native Image et puis après les façons d'utiliser GraalVM de manière un peu plus concrète en tant que développeur. Et puis après, on va aller un peu sous le capot, comprendre comment ça marche, les différentes versions qui existent, Enterprise Edition, Community Edition, et puis une longue discussion encore avec Gilles sur pas mal de choses bas niveau super intéressantes. Voilà, à la prochaine. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. www.touilleur-express.fr.